Turning today to the Gospel of John, chapter 3 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 1. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Or il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Et le titre de notre sujet ce matin, c'est « Les priorités du Seigneur ». Et mon premier point, alors que nous allons considérer ces versets qui sont là devant nous, si le temps le permet, jusqu'au verset 15, mon premier point sera celui-ci. Simplement, et d'une manière évidente, une vie nouvelle est essentielle. Il y avait un homme d'entre les pharisiens, écrit l'apôtre Jean, nommé Nicodème, un nom grec, mais il n'était pas grec. Il était un chef des Juifs, un membre du conseil du Sanhédrin, sans aucun doute, du conseil des 70, qui dirigeait le peuple juif sous le règne du gouverneur romain. Un pharisien, un chef des Juifs, la secte des pharisiens. Il y avait beaucoup de pharisiens en ce temps-là. Ils n'étaient pas le parti majoritaire dans le conseil du Sanhédrin, mais ils avaient beaucoup d'influence. C'était une secte, si on peut l'appeler ainsi, un parti parmi les chefs juifs, riches en particulier, qui a commencé à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Des gens qui étaient très hostiles contre l'influence grecque qui est venue parmi les juifs et qui gardaient les traditions. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bien dans ce qu'ils faisaient, mais ils sont allés trop loin parce qu'ils soulignaient tellement la loi cérémonielle, les rites, qu'ils gardaient de manière si méticuleuse. Tous les rites anciens, ceci était important, mais ils pensaient que ceci faisait qu'ils étaient acceptés par Dieu. À leurs yeux, tous les Juifs étaient acceptés par Dieu, c'était leur privilège en tant que Juifs. Et pour être bien accepté par Dieu et récompensé, avoir sa faveur, alors il fallait faire de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, c'était de garder méticuleusement la loi cérémonielle. Ils avaient ajouté beaucoup de choses à la loi de Moïse également, en particulier le jour du Seigneur. Et les lois humaines détaillées avaient été ajoutées à la loi de Dieu. Et en particulier, ils pensaient qu'en gardant ces choses, alors ils étaient acceptés par Dieu et ils auront une récompense encore meilleure. C'était là ce groupe des pharisiens. Et Nicodème était un pharisien et il croyait qu'il était accepté par Dieu par ce qu'il pouvait faire et accomplir ses œuvres. Ses valeurs morales étaient comme secondaires presque. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs, un pharisien orgueilleux, plein de propre justice. Mais il semble qu'il était un peu différent des autres, pas beaucoup, mais un peu différent des autres. Il n'était pas si opposé au Seigneur comme les autres. Dans le chapitre précédent, vous avez vu l'hostilité de toutes ces questions qu'ils ont posé à Christ quand il a purifié le temple. Ils étaient furieux. Vous pouvez voir la méchanceté dans les questions qu'ils lui posaient. Mais cet homme, Nicodème, semble un peu différent. Peut-être qu'il y avait un groupe de pharisiens parmi les chefs des Juifs qui pensaient « Oh, attendez un peu, cet homme qui fait ses miracles, ce nouveau prédicateur, est un danger pour nous. Il est une menace pour nous. » Pour notre règne, notre pouvoir, mais cependant, Dieu doit être avec lui. Parce qu'il fait de tels miracles, est-ce que nous ne pouvons pas œuvrer avec lui? Est-ce que nous nous précipitons un peu trop pour le voir en tant qu'ennemi? Au verset 2, cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui a posé une question. Son motif n'est pas révélé clairement dans ce texte, dans le récit de l'apôtre Jean. Ainsi, les gens pensent différentes choses. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, il le respecte. Nous savons que tu es un docteur, un enseignant venu de la part de Dieu. » Il utilise ce terme « nous savons ». Peut-être d'autres personnes avec lui sont émerveillées par ce que Christ peut faire, par sa puissance, par sa compassion, son œuvre de guérison dans le temple. Il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons qui étaient opérées. Le fait qu'il ne prenait pas d'argent, qu'il vivait simplement avec des vêtements simples, dans sa prédication, dans son comportement, il semblait être un homme de Dieu, mis à part, saint, et ils étaient intrigués. Il n'était pas le seul, je pense, à être intrigué. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Ils étaient extraordinaires, ces miracles de guérison si pleins de compassion. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais nous ne savons pas ce qu'il voulait réellement. Ainsi, les gens pensent différentes choses. Certaines personnes pensaient que c'était une mission personnelle de sa part. Ils pensaient, non pas comme le jeune homme riche plus tard, mais quelles autres bonnes choses il pouvait faire. En plus de garder la loi pour avoir la faveur de Dieu, c'est une des suggestions. Une autre suggestion est celle-ci. Je pense personnellement, mais le récit ne dit pas cela, je pense personnellement qu'il était soit individuellement ou en représentant d'autres personnes qui étaient plus ouvertes à Christ, qu'il est venu à Christ pour négocier quelque chose. Est-ce que nous ne pouvons pas travailler ensemble? Ou c'est simplement une idée? Mais pendant des siècles, les gens ont suggéré ceci, différentes personnes. Est-ce que nous ne pourrions pas travailler ensemble? Nous ne devons pas simplement le condamner, nous opposer à lui, parce que avec toute la popularité qu'il a, avec toute cette foule qui seront si reconnaissants pour ses grands miracles, où son enseignement est un défi, oui, plus que nous ne voudrions, mais ceci semble impliquer que nous, les chefs juifs, ne sommes pas acceptés par Dieu, mais cependant nous ne devrions pas aller contre lui, parce que nous pourrions travailler ensemble, nous pourrions gagner quelque chose en l'ayant avec nous, quelqu'un qui guérit tellement. Il n'avait pas eu quelqu'un qui faisait ses miracles pendant des années. Nous ne savons pas quand le dernier miracle de l'Ancien Testament s'est passé, mais le dernier qui est rapporté dans l'ordre chronologique, le dernier qui est rapporté dans l'Ancien Testament, c'est Daniel dans la fosse aux lions quand il a été délivré. Il a dû y en avoir d'autres avec les prophètes et leur ministère, mais ceci n'est pas rapporté dans la parole de Dieu. Et ceci était il y a bien longtemps. Ainsi, Israël n'a jamais vu des miracles tels que ceux que Christ pouvait opérer depuis des siècles. Il pensait que le Messie ne serait pas là pour sauver les individus, mais il pensait qu'il était là pour sauver la nation. Et Christ aurait pu faire partie d'une équipe. Oh, quelle puissance! Ce serait comme le Messie qui serait réellement un vainqueur, quelqu'un qui nous délivre des Romains. Oh, c'est très probable que Nicodème pensait ainsi. Il voulait négocier. Et la réponse de Christ pourrait réellement être en accord avec cela. Cela serait pour le bienfait des chefs juifs, le bienfait de Christ, au moins à leurs yeux, parce qu'ils n'auraient pas besoin de le persécuter, de s'opposer à lui, de l'éliminer. Ainsi, Nicodème, qui voulait réconcilier les différents partis, vient pour négocier. « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit. Il n'était pas silencieux. Il n'a pas répondu quelque chose qui n'avait rien à faire avec l'intention de Nicodème ou rien à voir avec son intention. Il lui répondit. « en vérité, je te déclare d'une manière solennelle. » Nous pourrions dire de nos jours, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, une vie complètement nouvelle, un nouveau départ, un changement radical, quelque chose qui est opéré en lui, qu'il ne peut pas faire pour lui-même, comme la naissance par exemple. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, qu'il ne soit né d'en haut, serait une meilleure traduction, qui est né de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas le voir. Nous ne savons pas quelle parole précise le Seigneur a utilisée en araméen, mais beaucoup pensent que le terme qu'il a très probablement utilisé implique ceci, et notre version essaie de traduire ceci, ne peut pas même commencer à voir le royaume de Dieu. Peut-être qu'il est un enseignant, mais il ne peut même pas comprendre ces choses, et encore moins les avoir, les posséder, à moins qu'il soit transformé radicalement et né de nouveau. Cette grande transformation, cette vie nouvelle est essentielle. Bien sûr que d'avoir cette communion avec Dieu pour lui appartenir, vous avez besoin d'avoir cette capacité d'avoir cette communion avec lui. Vous devez le prier, l'aimer, voir les choses de la manière par laquelle il les voit, de le désirer, d'aspirer à vivre pour lui, d'être transformé pour que ces choses se passent en vous. Il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Et nous allons parler un peu plus de cette grande transformation. Au verset 4, Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Nicodème n'est pas sérieux quand il dit ceci de manière évidente. Il n'est pas dupe, il n'est pas stupide, il sait très bien et c'est très évident que vous ne pouvez pas rentrer dans le sein de votre mère une seconde fois. Certaines personnes, même de bons prédicateurs, disent « Oh, Nicodème pensait tout d'une manière littérale. Est-ce que vous pouvez à nouveau entrer dans le sein de votre mère et être né une deuxième fois ?» Non, c'est là un chef juif qui est très intelligent. Il n'aurait pas pu dire une chose stupide, voyez-vous. C'est comme quelque chose de cynique, plein de doutes. Est-ce que quelqu'un doit être transformé, né de nouveau? Ceci ne peut pas se faire. Les gens ne changent pas. Les gens sont tels qu'ils sont. Il connaissait la nature de l'homme. Il était un chef des Juifs, un enseignant. Les gens ne changent pas. Il se disait, comment est-ce que vous pouvez avoir cette grande transformation dans votre cœur? Qu'est-ce que ce nouveau prédicateur, visionnaire, ce guérisseur dit? C'est extraordinaire, c'est impossible. Ainsi, il y a comme un cynisme, mais pas quelque chose d'hostile, c'est comme peut-être un peu d'humour. Oh, Nicodème qui dirait, oh, est-ce qu'une personne peut naître de nouveau et rentrer dans le sein de sa mère et naître une deuxième fois? C'est une façon de parler très juive, qui est pleine d'humour et cynique. Mais il nous montre ici qu'il connaît le cœur humain. Il sait que le cœur humain est dépravé, loin de Dieu. Vous ne pouvez pas être transformé, il se dit. Vous ne pouvez pas changer, ceci ne peut pas être possible. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Le Seigneur, dans sa douceur, dans sa bonté, reprend cette idée. Il ne répond pas directement, mais il reprend l'idée au verset 5. Jésus répondit, « Oh, Nicodème a mentionné rentrer dans le sein de sa mère à nouveau. » Et Jésus répondit au verset 5, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit. » Beaucoup de gens pensent qu'il parle ici du baptême d'eau et de la nouvelle naissance par l'esprit, mais ce n'est pas le cas. Il parle de la naissance naturelle d'un enfant. Quand il y a la perte des eaux, qu'un enfant est né, la naissance ordinaire, il semble dire « Oh non » à Nicodème, ceci ne signifie pas entrer à nouveau dans le sein de sa mère et être né une deuxième fois. Non, ceci veut dire être né de l'esprit, c'est là ce que signifie le verset 5. À moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, oui, naturellement, d'eau et l'eau, c'est ce dont quoi nous sommes constitués de manière principale. et d'esprit, cette naissance invisible, spirituelle, une autre naissance, une œuvre de Dieu dans notre vie. C'est là la deuxième naissance qui n'implique pas de rentrer dans le sein de sa mère, bien sûr. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous savons que c'est là la distinction, la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Parce que le verset 6 répète ceci sous un nouvel angle. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ceci interprète le verset 5 pour nous. « À moins qu'un homme ne naisse d'eau, la naissance physique, et en plus de ceci, d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » D'abord, sans cette transformation radicale, cette nouvelle naissance de l'esprit, nous ne pouvons même pas voir le royaume de Dieu. Et ensuite, ceci devient encore plus fort. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez ni le voir, ni y entrer sans cette nouvelle naissance, ce changement radical. Nicodème a dit des choses profondes. Un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Bien sûr que non. C'est très profond, qui est juste d'une certaine manière. Les gens dans leur nature même sont pécheurs. Ils ne peuvent pas changer radicalement. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle personne. Ce n'est pas possible par vous-même. C'est aussi impossible que de rentrer à nouveau dans le sein de votre mère quand vous êtes vieux et d'être né une seconde fois. Ainsi, il comprend le cœur de l'homme qui est dépravé. Et Christ lui montre que ce dont il parle, c'est une transformation qui est un acte de Dieu. Verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair. » Ce qui est né physiquement par des parents humains est chair et hérite de toutes les caractéristiques de la chair. Le père et la mère avaient une nature humaine qui a chuté loin de Dieu, cette nature humaine dépravée avec ses tendances de péché. Et l'enfant est né de la chair et il est chair également avec tous les problèmes de la chair. De cette nature humaine qui a chuté loin de Dieu, cette naissance physique produit uniquement un autre être humain qui a chuté loin de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, avec toutes ses limites. Et l'esprit dans l'homme dort, il est inactif, le cœur est contre Dieu, la volonté est déterminée contre Dieu. Il y a cet amour du péché, cet amour de soi, il y a cette faiblesse, cette grande faiblesse morale. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nature spirituelle est rajoutée. C'est-à-dire que l'esprit qui dort est ramené à la vie. Et il y a cette union avec Dieu, il y a ces nouveaux désirs. L'esprit est ouvert. Et le Seigneur nous donne cette compréhension pour que nous puissions comprendre le message du salut, le message de la Bible, et tout est transformé. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est une œuvre, un acte de Dieu. Avec ces nouveaux composants, ce nouveau caractère, cette nouvelle obéissance, c'est quelque chose que nous avons mentionné mercredi soir pendant notre étude biblique, l'obéissance. Toute la société de nos jours, depuis les années 1960, est contre le concept de l'obéissance. Même l'obéissance aux parents, même l'obéissance à quiconque. Et vous ne devez obéissance à personne et pas à Dieu non plus. Et cette jeune société est profondément affectée par ces choses. Et il y a ce lavage de cerveau pour nous apprendre à ne pas obéir. Et c'est notre tendance naturelle de toute manière. L'un des grands signes de la conversion, c'est que soudainement par l'esprit, cette chose rentre dans le cœur humain et nous réalisons que la parole de Dieu nous demande d'obéir et nous réalisons que nous devons obéir à Dieu, que nous devons être justes devant lui et ceci nous est donné, ceci fait partie du salut. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette personne qui est orgueilleuse, qui n'est pas enseignable, qui devient enseignable et instruite par Dieu et écoute, c'est une grande transformation. L'obéissance à Dieu nous est donné, et ce désir pour lui, cet amour pour lui, cette compréhension de Dieu, nous avons une nouvelle direction de notre vie. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et au verset 7, « Ne t'étonne point, ne sois pas stupéfait de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Comment se fait-il que tu ne sais pas ces choses ? Christ semble impliquer ceci. Nicodème est stupéfait parce que ceci remet en question sa position devant Dieu et la position de tout le conseil du Sanhédrin. Peut-être qu'il y a des gens pieux et honnêtes et sincères, mais la plupart d'entre eux étaient terriblement opposés à Christ et furieux à cause de sa prédication. Nicodème est stupéfait. Oh, c'est une chose si bizarre que de prêcher cela. Comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion ? Ce verset 7, c'est quelque chose qui me remet en question. Vous devez naître de nouveau. Chacun d'entre vous, les pharisiens, le peuple, pour être accepté par Dieu, vous devez bien sûr être sous le sang de Christ. Et ceci viendra plus loin, mais il parle ici de votre nature. Nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas cette communion avec Dieu, nous ne le désirons pas. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit à Nicodème qui était stupéfait. Vous voyez cette explication merveilleuse au verset 8 ici. Le vent souffle où il veut, partout où il est enclin à aller. Indépendamment de l'influence humaine, vous ne pouvez pas rediriger le vent. Oh combien ceci est merveilleux. Si nous pouvions rediriger le vent et rediriger le jet stream pour aller plus au nord, pour que nous puissions avoir du beau temps tout le temps. Mais nous ne pouvons pas changer la direction du vent autour de votre jardin, de votre maison. Non, le vent souffle où il veut, indépendamment de l'influence de l'homme. Et tu en entends le bruit dans les arbres, parce que le vent bouge les choses, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Quel est son but, où il va, vous n'avez aucune idée. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est une œuvre secrète et invisible, un acte de l'Esprit de Dieu qui est si différent de la naissance naturelle et qui s'opère dans la vie des gens en tant qu'individus, un par un. Au verset 9, Nicodème le dit, « Comment ces choses se peuvent-elles faire ? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu ceci auparavant ? Comment se fait-il que ceci n'est pas un enseignement orthodoxe parmi nous ? Pourquoi est-ce que ceci ne fait pas partie de notre enseignement dans le temple et parmi les chefs juifs, parmi le clergé juif ? Comment se fait-il que ce que tu me dis est si nouveau, si différent ? Il n'a jamais entendu ceci auparavant ? Et la réponse de Christ à ce moment-là, est très intéressante pour nous. Au verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, un enseignant en Israël, et tu ne sais pas ces choses. Ce sont là les choses mêmes que tu vois dans les Écritures depuis le début de la parole de Dieu. Ça a toujours été la doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu. » Comment se peut-il que toi, en tant qu'enseignant d'Israël, un chef juif, tu ne sais pas ces choses qui sont si importantes ? Et là, dès le début de l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, et c'est là mon troisième point, Christ d'abord a dit que la nouvelle naissance est essentielle. Deuxième point, c'est un acte de Dieu par l'Esprit. Et troisième point, ceci a été révélé il y a bien des siècles. Et Nicodème devrait savoir cela. Comment est-ce que les chefs juifs, à l'époque du Seigneur, sont allés si loin ? Ils ont tellement erré de ce qu'ils auraient dû savoir que l'un de leurs enseignants était stupéfait en entendant parler de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, de même, l'Église protestante de nos jours, même après la réforme extraordinaire, le réveil de cette doctrine extraordinaire, et de nos jours, l'Église protestante est si loin de cela, Au VIe siècle, l'Église catholique a entièrement dévié loin du fondement de l'Évangile et a complètement perdu l'Évangile. Et si vous dites à un prêtre catholique de nos jours, vous avez besoin de la nouvelle naissance, il répond, oh, d'où est-ce que ceci vient? La même réponse que Nicodème. Et les protestants de nos jours diraient la même chose, d'où est-ce que vous trouvez cette idée? Ces choses sont bizarres. Ils ont dévié autant que les juifs, il y a bien des années, loin de leur doctrine, de leur héritage. Et le libéralisme théologique qui a repris la plupart des dénominations de ce pays, de même, ils sont si loin de ces fondements qui sont enseignés dans toute la parole de Dieu. De nos jours, vous parlez à un théologien libéral, peut-être qu'il a entendu parler de votre position, mais ils disent « Oh, d'où est-ce que vous trouvez ces idées qui sont si loin de ce que nous pensons ?» Et ces choses se répètent. Ce qui s'est passé pour les juifs en ces temps-là se passe également parmi les églises des non-juifs. Le temps passe et le chemin du salut est mis de côté. Et des choses qui n'ont aucun sens prennent la place et d'autres idées qui sont complètement contraires à l'Évangile remplacent l'Évangile. Et nous considérons ici la réponse de Christ à Nicodème. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, il aurait dû savoir. Dès le début de l'Écriture, vous voyez ces choses en Abraham qui a été appelé à marcher avec Dieu et dans l'obéissance, dans la foi. Dieu prend son cœur et l'amène tout près de lui. Il lui obéit, il le suit et il laisse de côté la société dans laquelle il a été élevé. Et il suit le Seigneur. Toute l'histoire d'Abraham et l'histoire de la famille d'Abraham, c'est une marche personnelle avec Dieu en l'expérimentant, en le connaissant, en ayant reçu un cœur nouveau, une vie nouvelle. Vous voyez ceci en Moïse, dans Deutéronome chapitre 29, chapitre 30, Moïse qui appelle le peuple. Il est un homme âgé, il a 120 ans à ce moment-là. Et il dit, toutes ces années, je vous ai prêché, et cependant, la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais trouvé le Seigneur. Vous ne marchez pas réellement avec lui. Il vous a gardé. Vous avez vu sa puissance, ses miracles, sa grande bénédiction. Et vous devez le chercher, le trouver dans votre cœur. Vous devez être circoncis dans votre cœur, et pas seulement dans votre corps, mais dans votre cœur. Cette opération de Dieu dans votre cœur, cette vie nouvelle qui est enseigné depuis le livre le plus vieux de la Bible. Ainsi, Moïse a prêché au peuple en disant « Choisissez la vie !» Ils doivent abandonner l'ancienne vie et vivre une vie nouvelle. Et nous voyons ces choses dans toutes les ombres de l'Ancien Testament, également, bien sûr, dans le roi David, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Il dit « Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur, ô Dieu !» Ce dont nous avons besoin, c'est un cœur nouveau. Il a prêché ces choses. Vous voyez ces choses dans les psaumes, sa foi personnelle, cette transformation de sa vie. Toujours à nouveau, il parle de ces choses. Et dans les prophètes, dans Jérémie, le jour vient où il ouvrira la porte, non seulement pour les juifs, mais également pour les non-juifs. Une porte ouverte et le cœur de pierre sera ôté et un cœur de chair leur sera donné. Et nous pourrions passer des heures et des heures sur toutes les doctrines de l'Ancien Testament. Oh, il n'est pas surprenant que Christ a dit à Nicodème, « Es-tu un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» La vie nouvelle, cette grande transformation dans la vie, l'équivalent d'une nouvelle naissance, ces facultés spirituelles qui sont réveillées dans une personne qui est morte, qui est si loin de Dieu. Est-ce que tu n'as jamais entendu cela? Est-ce que tu ne sais pas ces choses? Au verset 11, « en vérité, je t'assure d'une manière solennelle, dit Christ, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. » Nous disons uniquement ces choses. Oh, peut-être qu'il parle de Jean-Baptiste et de lui-même, ces deux prédicateurs importants à ce moment-là dans le récit. Nous prêchons ces choses qui étaient là devant vous, devant vos yeux pendant des années. Et ces choses, qui sont sûrs que nous savons, que nous avons expérimenté, et vous ne recevez point notre témoignage. Et nous revenons au début de l'évangile de Jean. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Nicodème, les pharisiens sont parmi eux. Vous ne recevez point notre témoignage. Et au verset 12, ceci fait partie de ce qui a été révélé il y a bien longtemps. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Les gens m'ont souvent posé des questions par rapport à ce verset quand ils ont lu l'évangile de Jean. À quoi est-ce que Christ se réfère dans ce verset ? Si je vous ai parlé des choses terrestres, la réponse la plus probable est celle-ci, que les doctrines que Christ présente ici, ses priorités, sont comme divisées en deux parties. La première partie, c'est ce dont il a déjà parlé à Nicodème. C'est cette nécessité de la nouvelle naissance parce que nous ne sommes pas adéquats devant Dieu, nous sommes corrompus, nous n'avons pas de vie spirituelle en nous, nous devons être transformés par cet acte de Dieu, cet acte de l'Esprit et nous devons recevoir ces facultés spirituelles, cette nouvelle disposition d'esprit, nous devons être transformés et vous pouvez voir ceci par vous-même. Nicodème, tu peux voir ceci, tu peux voir la nature humaine qui est corrompue, tu le sais très bien. Nicodème, oui, croyez dans la dépravation de l'homme. Si je vous ai parlé des choses terrestres, que nous avons besoin d'un cœur nouveau, d'une nouvelle nature, et que vous pensez que ceci est trop difficile à comprendre, alors comment est-ce que vous pouvez croire si je vous parle des choses célestes ? C'est là ce que Christ fait plus tard en passant. Mais comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes, de la théologie des choses célestes, que Christ, le Fils de Dieu, est venu du ciel, qu'il a pris une nature humaine, un corps humain, qu'il est devenu notre représentant, qu'il a souffert, qu'il est mort à la croix du calvaire, et Dieu a déversé sur lui tous les péchés de tous ceux qui seront rachetés, de toute nation, de tout pays, de toute génération, et l'a condamné lui, avec toute cette condamnation éternelle, pour qu'il n'ait pas besoin de les condamner eux. Et si je vous parle de la grâce, de l'expiation, de ce côté spirituel du salut, si vous ne pouvez pas croire que nous avons besoin de la nouvelle nature, que nous pouvons la recevoir de Dieu, comment est-ce que vous allez croire dans ces choses spirituelles, cet aspect spirituel, la mort expiatoire de Christ? C'est très probablement ce que Christ veut dire dans ses paroles au verset 12. « Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ?» L'œuvre de Christ. Et ensuite il continue. En lui parlant des choses célestes, c'est comme un avertissement pour lui, en lui disant « Oh, écoute bien » au verset 13, mais... Mon temps est presque passé et je n'aurai pas le temps de parler de ce verset 13. Mais c'est merveilleux, chers amis, ce verset. Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ceci se réfère clairement à Deutéronome chapitre 30 et au verset 11 à 14. L'enseignement de Moïse, expliqué par l'apôtre Paul dans Romains 10. Je n'ai pas le temps, mais je vais lire ce passage et je vais conclure. Mais dans Deutéronome chapitre 30, verset 11, Moïse prêche au peuple là, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui, de se repentir, d'être sauvé, d'être transformé, n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas élevé, il n'est pas dans les cieux, pour qu'on dise « Qui montera pour nous aux cieux ?» et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Il n'est point non plus au-delà de la mer, pour qu'on dise « Qui passera pour nous au-delà de la mer ?» et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Mais cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort Et le mal, c'est Moïse. Paul nous dit dans Romains 10 qu'il leur prêche l'évangile, qu'il leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'aller au ciel et d'avoir la faveur de Dieu, mais que Christ descendra du ciel, qu'il accomplira tout ceci pour qu'il puisse aller au ciel par sa mort expiatoire. C'est là le début de l'enseignement. Paul l'appelle la prédication de l'évangile par Moïse. Mais Nicodème connaissait ce passage très bien et Christ se réfère à ce passage quand il dit ces paroles. Personne n'est monté au ciel. Bien sûr, il n'y avait pas de chapitre et de verset, mais ceci, c'est Deutéronome chapitre 30. Et Nicodème connaissait ces versets. Il n'avait pas besoin de monter au ciel et de mériter cette faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas. Personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il sera élevé et il y a un certain nombre d'analogies au verset 14. Et il va souffrir, il va mourir. Il ne parle pas de tous les détails par rapport à la croix du calvaire, mais il lui dit beaucoup. Et avec le temps, quand Christ est crucifié, Nicodème aura ces choses confirmées dans son cœur. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. C'est lui que nous avons livré. Il a souffert. Il est mort pour ouvrir le ciel pour nous. Oh, je ne prêche pas ce matin à ceux qui ne sont pas convertis. C'est un enseignement, ce matin, un culte d'enseignement. Mais je dois dire ceci. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous avez été transformé radicalement? Est-ce que vous êtes venu à ce culte? Probablement vous croyez en Dieu. Dans une certaine mesure, vous croyez en Christ, probablement. Mais est-ce que vous avez eu cette nouvelle naissance, cette grande transformation, cette conversion réelle et authentique, ces facultés qui vous ont été données par la repentance, par la foi en Christ? Mes chers amis, regardez ceci. Même les Juifs, avec tout leur enseignement, ont dévié loin de ceci. Et l'un des chefs juifs n'avait jamais entendu parler de cette doctrine, la nouvelle naissance, ce cœur nouveau, cette vie nouvelle, ce nouveau départ, cette repentance par rapport à la vie passée et cette nouvelle vie dans cette communion avec Dieu. Oh, ne déviez jamais de ces choses que cette Église, peu importe l'histoire, le temps qu'il reste avant la venue du Seigneur, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste, que cette Église ne dévie jamais de ce message du salut en Christ et de la nouvelle naissance. Si facilement nous dévions, parce que ceci s'est passé dans des milliers d'églises, il y a tant d'églises baptistes ici à Londres, où même les prédicateurs et encore plus ceux qui écoutent seraient stupéfaits d'entendre cette prédication de la nouvelle naissance, aussi stupéfaits que Nicodème l'était. Ainsi, ces choses sont précieuses. Nous les gardons, nous dépendons de ces choses et nous les gardons précieusement. Nous les tenons fermes. Christ a commencé là avec ce miracle en transformant l'eau en vin à Cana en Galilée. Et il est là à présent à Jérusalem. Il a purifié le temple. Il a déjà guéri par des miracles beaucoup de personnes. Et à présent, vous voyez sa rencontre avec un chef juif, un théologien, un enseignant dans le temple. Et quel est le sujet dont il parle? Nous ne pouvons pas collaborer ensemble, nous ne pouvons pas négocier, je suis bien désolée. Mais le temple, dans son état actuel, ne peut amener personne à Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est la nouvelle naissance, une transformation radicale. Et c'est toujours encore le message de Christ. C'est là son message, sa priorité, son but. Il a souffert, il est mort pour expier nos péchés, pour que nous puissions être déclarés justes et être pardonnés. En même temps, il transforme la vie de ses enfants pour que nous devenions de nouvelles personnes, que l'Esprit de Dieu vous amène à aspirer à ces choses, cette vie nouvelle qui est en Christ.